Bonjour chers auditeurs, merci d'être là, merci pour les écoutes, merci pour les 5 étoiles sur Apple Podcast et les autres plateformes, merci pour les commentaires que vous pouvez mettre sur vos plateformes d'écoute de podcast, merci pour votre soutien. Vous pouvez maintenant, si vous le souhaitez, me soutenir en vous abonnant aux formules Papatriarcat Plus qui vous permettront d'accéder à du contenu sans publicité et du contenu bonus. Les liens sont en description des épisodes. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Avec quelqu'un qui a dit que je peux pas jouer aux poupées et après j'ai pleuré.
Bienvenue sur Papatriarcat, le podcast qui réfléchit à la parentalité au XXIe siècle pour l'affranchir du modèle patriarcal. Dans cet épisode, je reçois Catherine Dumonteil-Crémer. Mère de 3 enfants, ancienne travailleuse sociale, elle est consultante familiale, formatrice aux techniques de communication, éducatrice Montessori. Elle est aussi la fondatrice de la Journée de la non-violence éducative, cofondatrice de l'Observatoire sur la violence éducative ordinaire, l'Observatoire OVO, fondatrice de PEPS Magazine. Nous allons parler d'attachement, de parentalité, de violence éducative ordinaire, mais aussi d'instruction en famille. Dans l'accompagnement de ma fille de 2 ans, j'avais déjà eu l'occasion de lire, voir ou écouter le travail de Catherine Dumonteil-Crémer, et c'est son dernier livre, qui s'appelle « La parentalité créative », illustré par Lise Desportes, qui m'a interpellé. J'ai pris ce livre avec la peur d'y trouver une méthode, et justement, ça n'est pas le cas. Et c'est ce qui va amener la première question que j'avais envie de poser à Catherine Dumonteil-Crémer, est-ce qu'il existe une méthode pour être un bon parent ?
La question piège, il y a deux choses dans votre question, c'est méthode et bon parent. En fait, je ne crois pas trop aux bons parents ni à l'harmonie. Moi, je crois beaucoup au chaos et au fait qu'on doit s'adapter à des changements successifs. C'est tout à fait un modèle, être parent, pour l'apprentissage. On est constamment en train d'apprendre des choses nouvelles qui nous déstabilisent. Et quand on croit avoir trouvé un équilibre, et parfois on trouve un équilibre dans le couple avec un premier enfant, etc., survient le deuxième enfant, survient une maladie dans le couple, survient une maladie du parent, etc. Et on est obligé de s'adapter en permanence. Il n'y a pas de méthode. Il y a quelques outils, je dirais. D'ailleurs, j'en parle très simplement dans le livre. Je pense que ce sont des outils qui sont assez universels. Il y a quelques outils qu'on peut transmettre, effectivement, et que beaucoup d'entre nous qui sommes des militants de la non-violence éducative essaient de transmettre aux parents. Et ensuite, il faut se reposer sur la créativité de l'être humain, je pense, créativité qui lui permet de bidouiller, bricoler un truc qui va s'adapter à sa propre famille, parce que toutes les familles sont différentes, il y a des gens qui ne vivent pas ensemble, il y a des personnes qui sont séparées, il y a des homoparents, il y a des parents qui sont en situation de handicap, il y a 1000 situations très variées dans la parentalité, c'est extrêmement riche. On n'a pas, en tout cas moi, je n'ai pas produit une méthode pour une bonne parentalité. Pour une parentalité, c'est plutôt un accompagnement pour une parentalité qui s'adapte et qui prend soin aussi d'elle-même en tant qu'individu, finalement. Accompagner des enfants, ça nous demande de l'énergie, du recul, de construire aussi en soi une certaine confiance, une estime de soi. Voilà, donc, bon, il n'y a pas de bons parents, ni de mauvais parents. Il n'y a pas de parentalité positive, parce qu'il n'y a pas de parentalité négative. La parentalité positive, vous devez le savoir, c'est un terme qui a été utilisé par le Conseil de l'Europe en 2008. Donc, je pense qu'on s'en est tous à peu près emparés. Mais finalement, en bricolant, finalement, en réfléchissant, je me suis dit, tiens, mais c'est le concept, c'est la parentalité créative. Parce qu'on crée et parce qu'on s'adapte chaque jour à des situations nouvelles.
En effet, je vous rejoins totalement sur le fait qu'il n'y a pas de bons parents. Ça fera du bien à tout le monde de l'entendre. Et ce côté justement très créatif, adaptable. Que j'ai utilisé il y a quelque temps le mot justement résilience. Le fait que moi, la parentalité, ça m'a appris la résilience. Ça m'a permis de remettre en place ma résilience que je pouvais avoir quand j'étais plus petit, je pense. Et est-ce que finalement, ce concept de parentalité créative, quand je vous lis et que je vous écoute, moi j'ai vraiment l'impression qu'on essaye d'aller réveiller l'enfant qui sommeille chez l'adulte.
Ça peut être vu comme ça, parce que on a été des enfants joyeux, heureux, sautillants, enthousiastes, et tout ça, ça s'est un petit peu éteint, il faut quand même bien le dire. Donc peut-être que on peut aussi aller se dire oui, j'aimerais enfin récupérer cet enthousiasme que j'avais quand j'étais enfant. Mais moi, je crois à l'adulte en fait. Je crois beaucoup que l'adulte, le concept vivre et grandir ensemble, qui sont les programmes que j'ai écrits pour les consultants que je forme, ça dit tout en fait. On vit et on grandit ensemble. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a fini de grandir, on continue de grandir. Mais un enfant a beaucoup moins d'expérience que nous, ça c'est sûr. Et l'adulte, lui, finalement, je dirais d'une certaine manière, bénéficie de cette vie commune, de cette vie avec les enfants pour réparer. Moi, je préfère le terme de réparation au terme de résilience, parce que c'est ça qu'on fait. On répare en pleurant, on répare en se laissant complètement envahir par ses émotions dans le cadre d'une thérapie ou dans un cadre de groupe de parents. Bref, on avance petit à petit, on guérit nos blessures, mais ça ne se fait pas en claquant des doigts. C'est un parcours, c'est le travail d'une vie. C'est pour ça aussi, je crois, qu'il n'y a pas de bons parents. Il y a des parents qui sont en route. Et petit à petit, plus nos enfants grandissent, plus ils réveillent les blessures d'enfants qui correspondent à l'âge. Bon, là, Cédric, vous avez évoqué brièvement que vous avez une petite fille de 2 ans. Donc, 2 ans, c'est un âge très particulier parce qu'on a à la fois beaucoup de puissance, beaucoup d'enthousiasme, envie de tout faire et on a aussi beaucoup d'émotions. On a un accès à ces émotions qui n'est pas toujours accueilli par les parents. Donc, ça va réveiller tout ce que, peut-être chez vous, j'en sais rien si ça l'a fait, mais ça réveille en nous tout ce qu'on n'a pas reçu de nos parents finalement. Quand notre enfant fait une crise de rage au supermarché, aïe, 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 c'est compliqué parce que qui nous a écoutés en crise de rage finalement? Qui a été capable d'accueillir notre crise de rage? Si on avait été capable, si nos parents avaient été capables d'écouter notre crise de rage, on aurait immédiatement guéri de la frustration liée au fait que ben non, on peut pas tout acheter dans le magasin, hein, on arrive à la fin de l'année, les catalogues fleurissent, vous voyez ce que je veux dire. Donc il va y avoir des crises de rage dans les supermarchés probablement. Mais ce travail-là n'est pas fait, on nous a reproché voire violenté quand on était en crise de rage, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'écoute d'une crise de rage de notre enfant, c'est compliqué pour nous et nous devons nous en occuper plutôt que de se dire « Oh, bon, ça me gonfle ». Oui, on a le droit de se dire ça, « Ça me gonfle, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas envie de la crise de rage ce soir, je suis trop crevée ». On a le droit, mais à un moment donné, c'est important d'aller examiner ce que ça nous fait et ce que ça nous fait va nous ramener directement à notre enfance et on a un moyen de réparer cette blessure d'enfant qui est encore en nous et qui nous fait agir en tant que parents.
Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord. Ça rejoint d'ailleurs tout ce qu'on peut connaître et apprendre aujourd'hui sur l'attachement, sur ce qu'on va appeler l'enfant intérieur. Je crois que vous évoquez le terme de mémoire traumatique.
Oui, absolument.
Si je ne me trompe pas. J'ai trouvé qu'en fait, c'était deux concepts qui se rejoignent complètement, en fait. Ce sont deux termes différents, mais j'y ai vu les mêmes idées, surtout la même capacité. Et c'est peut-être un message qu'on peut passer aux parents qui peuvent nous écouter. C'est cette capacité à s'auto-réparer.
Oui, absolument. On a cette possibilité de se réparer avec le soutien d'un autre individu. C'est quand même mieux parce qu'on s'est retrouvé très très seul quand on était enfant. Une solitude assez pesante finalement, et d'autant plus qu'on était en proie à des émotions, on se trouvait envahi par des émotions difficiles. Donc cette mémoire traumatique, quand elle est réveillée, elle nous permet de mettre le doigt sur quelque chose, plutôt que de culpabiliser à l'infini, de se dire « ah, j'aurais pas dû lui dire ça, pourquoi j'ai fait ça ?» La culpabilité, c'est très bien si elle nous permet de tout de suite se dire « bon, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?»« Bon, ok, là, j'ai merdoyé, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ?»« Ben, oui, je peux faire des choses et je vais les faire, je vais les mettre en place. » Donc, la mémoire traumatique, elle nous amène à faire ce chemin. C'est un chemin très, très chaotique. Hein. Il y a quand même, c'est pas tout le temps que ça se passe aussi bien. Hein. C'est quelquefois, on est complètement envahi par notre colère et on va aller beaucoup trop loin, on va blesser notre enfant et puis il va nous falloir du temps pour redescendre. Redescendre prend un certain temps, quelquefois entre une demi-heure, une heure. Ça dépend. On est fâché avec notre enfant, on confie avec lui. Mais je crois qu'il ne faut pas baisser les bras et abandonner l'idée que, ben oui, c'est sûr, ça va laisser une empreinte en lui, mais on va pouvoir la guérir aussi, on va pouvoir rattraper certaines choses. Beaucoup d'éléments de notre parentalité se rattrapent, et ça, c'est chouette, c'est génial. Maintenant, concernant l'attachement, puisqu'on parlait d'attachement, moi, j'ai l'impression, et là, je passe à un autre sujet, je ne sais pas si j'ai le droit de le faire, Cédric, puis-je le faire ?
Faites comme vous le sentez.
Non, parce que l'absence d'attachement me semble avoir des conséquences assez dramatiques. Et finalement, ce que je constate chez les adultes que je peux avoir en formation, et chez moi également d'ailleurs, je ne fais pas exception à la règle, c'est que le fait de ne pas avoir eu le temps de s'attacher et d'avoir une relation sécurisante avec ses parents, ça nous amène à rechercher cette sécurité d'une manière ou d'une autre. Alors, soit au travers de l'alimentation, soit au travers du gambling, du jeu, soit au travers d'Internet, soit au travers de dépenses compulsives, d'addictions diverses. Pour moi, tout ça, c'est lié à l'absence d'attachement et au fait qu'on va constamment essayer de rechercher une sécurité qu'on n'a pas eue quand on était bébé. Et c'est vraiment très, très ennuyeux. C'est problématique. Ça a un impact sur toute la durée de la vie, le fait de ne pas avoir passé ses premiers mois au contact avec son bébé et de ne pas s'être organisé pour répondre à ses besoins. Et vous l'avez lu certainement dans la parentalité créative, ça n'est pas parce qu'on fait garder son enfant qu'on abandonne cette idée, mais c'est important de faire de la personne du tiers, finalement, qui va s'occuper de notre enfant, une figure d'attachement. Et quelquefois, on ne prend pas ce temps, quoi. C'est, voilà.
C'est en effet quelque chose qui est essentiel à la construction de l'être, l'attachement sécure. Vous l'avez évoqué, ouais. Le mot de sécurité, et en effet, l'attachement sécure est essentiel. Je vous rejoins totalement sur le fait qu'il faut prendre le temps de créer un lien d'attachement avec les personnes. De toute façon, c'est quelque chose qui va se répercuter après, que ce soit chez le petit enfant ou même en grandissant, puisque des liens d'attachement, on en fait tout le temps. Les personnes avec qui on choisit de partager nos vies, par exemple, peu importe notre orientation sexuelle, de genre ou quoi que ce soit, on va créer un lien d'attachement. Et si on a connu un lien d'attachement sécure étant enfant, on va être capable de reproduire ce modèle de lien d'attachement. Et c'est très intéressant parce que dans le cadre notamment des violences sexistes et sexuelles, notamment dans le couple, souvent on retrouve des relations d'attachement toxiques qui ont été connues enfant, qui sont tout simplement faites reproduites. Parce que c'est le seul lien d'attachement qu'on connaît. Et en effet, ça demande un énorme travail sur soi, sur ce qu'on a pu connaître, mais qui fait beaucoup de bien et qui permet d'avancer ensuite très sereinement dans la vie. Donc il y a différentes manières. Et tout à fait, l'accompagnement est en effet très, très, très fortement recommandé, voire même obligatoire, justement pour avoir des outils pour ensuite être autonome sur le sujet. Ça a été mon cas. Moi, j'ai eu la voie royale, j'ai connu une thérapie. Et juste pour être très clair avec les gens qui peuvent nous écouter, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de problématique d'attachement dans ma vie de tous les jours, bien au contraire. Ça veut juste dire que j'ai des outils pour réussir à appréhender et à m'adapter aux situations que je rencontre. Pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit aussi au début, moi, il n'y a pas de méthode donc pour être... Il n'y a pas de bon parent, ça n'existe pas. C'est un concept qui n'existe pas. Il n'y a pas de méthode pour le devenir, ça n'existe pas. Il y a en effet toute une palette d'outils, et c'est très intéressant justement de s'intéresser aux différents outils qui peuvent exister, parce que il y en a un certain nombre, et ça permet d'aller piocher ce qui nous correspond à un instant T, et éventuellement d'en changer dans notre parcours de parentalité. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça. Et en tout cas, il n'y a pas de réponse magique à la parentalité. Ça, c'est désolé pour celles et ceux qui nous écoutent et qui attendaient une réponse magique, il n'y en a pas. Et je voudrais revenir maintenant sur une autre partie de votre parcours. Donc, comme je vous disais, vous êtes pionnière sur la sensibilisation des violences dites éducatives ordinaires en France. Une loi est passée le 11 juillet 2019. Donc, belle nouvelle. Et depuis, on en est où, selon vous ?
On en est où? Selon moi, on en est où? Eh bien, en ce qui me concerne, je continue mon travail. Je ne me préoccupe pas de ce qui est mis en place parce que je note quand même que le ministère de la Santé a financé Peps Magazine pour élaborer une web série de 3 épisodes qui a pour objectif de prévenir les violences éducatives ordinaires dans certaines situations. Donc, on a choisi de faire 2 épisodes sur des situations un peu problématiques que peuvent rencontrer les parents, qui sont le supermarché, les courses au supermarché, la circulation dans la ville, marcher dans la ville. Et puis, le 3e épisode qui sortira le 20 novembre sur les émotions des parents. Pour le moment, je n'ai pas. Il y a eu les 1 000 jours aussi, le rapport des 1 000 jours. Je n'ai pas beaucoup d'éléments de réponse à vous fournir, si ce n'est que de mon côté, je continue à construire tout un dispositif de soutien à la parentalité et aux professionnels, en créant des formations pour les parents et des formations pour les professionnels, mais aussi en mettant à la disposition du public des éléments gratuits, des fascicules, le fascicule sans fessée, comment faire, notamment. On a également écrit un fascicule sur la colère. Qu'est-ce que je fais quand je suis très en colère contre mon enfant? Donc, bon, moi, mon travail d'information, de militantisme, de formatrice, d'auteur, je le continue, je le poursuis et j'espère vraiment sincèrement qu'il y aura des financements pour les formations, pour la formation des professionnels notamment, parce que je crois qu'aujourd'hui, on a affaire à un milieu, notamment pour parler des professionnels de la petite enfance, par exemple. C'est un milieu qui est très hétérogène, qui fait aussi beaucoup de formations, mais il y a encore trop d'hétérogénéité de ce côté-là, et il va falloir on va avoir une période de transition, en fait, où tous les professionnels qui sont en contact avec des enfants devront être formés. Pour l'instant, ce travail, il est fait petit à petit par des financements de la CAF, des OPCA, pas de la CAF. La CAF, c'est plutôt les parents. Mais ça n'est pas systématique. Je crois qu'on s'attend quand même à ce que les mesures concernent, à ce que les mesures d'accompagnement vraiment concernent tous les parents et à ce qu'il y ait un tri dans les offres qui sont proposées aux parents aujourd'hui, parce qu'il y a aussi cette espèce de noyade dans des informations qui sont parfois très contradictoires. On a aussi quelquefois des initiatives de campagne contre la violence éducative ordinaire, qui sont quelquefois aussi très culpabilisantes. Donc, je crois que c'est un sujet qui se réfléchit, qui doit se réfléchir en amont. On doit avoir une réflexion collective là-dessus. Les parents, c'est très important de les connaître, de connaître leurs réactions, de savoir ce qui leur fait du bien et qui donc leur permet d'avancer, et de ce qui leur fait du mal et qui donc les fait se refermer et rejeter l'information. Quand on se sent coupable, en fait, un parent qui se sent coupable, on va le perdre, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Continuer à travailler avec lui ou simplement lui dire c'est pas bien ce que tu fais? Et utiliser de cette manière toute l'éducation traditionnelle, les méthodes de l'éducation traditionnelle qu'on a tous reçues. Donc, c'est quelque chose qui devrait se réfléchir et je pense qu'il y a une réflexion. Pour le moment, voilà, je crois qu'il y aura des mesures, lesquelles je n'en sais rien, mais je les attends avec une grande impatience.
Si je comprends bien, il y a plusieurs éléments dans votre réponse qui m'intéressent grandement. Déjà, il y a le sujet de la formation des professionnels. Je ne peux que vous rejoindre. Et d'ailleurs, c'est un point essentiel du rapport des 1 000 premiers jours de l'enfant remis en septembre au gouvernement, qui indique très clairement sur l'ensemble des points, que ce soit l'accompagnement des parents, l'allaitement, le parcours obstétrical, il faut mettre à jour. Même si l'expression n'est pas forcément géniale, mais il faut du personnel qui soit à jour sur les avancées concernant le développement de l'enfant et sur l'ensemble des sujets. Aujourd'hui, en effet, il n'y a pas de campagne, en tout cas de campagne officielle de l'État sur ce sujet-là, et c'est fort dommage parce que il y a du personnel passionné, passionnant, et qui ne demanderait que ça, je pense, d'avoir les outils pour pouvoir avancer dans leur pratique. Avec plus de cohérence entre le développement de l'enfant, les attentes du parent et leur aspiration professionnelle. Et il y a un point qui m'intéresse particulièrement quand vous avez parlé des campagnes pour la sensibilisation des violences dites éducatives ordinaires. Aujourd'hui, pour avoir eu l'opportunité d'en parler avec le secrétaire d'État à l'enfance, Adrien Taquet, les campagnes, en fait, il n'y a pas de campagne officielle de l'État sur le sujet.
Non, absolument.
Il y a des financements potentiellement de campagnes d'associations. Et justement, les campagnes que je vois passer aujourd'hui sont problématiques pour moi parce que elles sont extrêmement culpabilisantes. Et je vous rejoins totalement dans cette analyse. J'ai beaucoup aimé quand vous avez expliqué que finalement, ces campagnes extrêmement culpabilisantes, n'ont pas vraiment de fondement puisque la loi est là, donc c'est bon, on a compris, la loi est là, c'est bon, on n'a plus le droit. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant que moi j'avais relevé. C'est que dans la présentation de cette loi, on a expliqué aux parents qu'ils n'avaient plus le droit d'eux. Mmh. Au lieu d'expliquer que maintenant, c'est les enfants qui avaient le droit d'eux. Mmh. C'est pas les parents qui ont plus le droit de frapper l'enfant, c'est les enfants qui ont droit à une éducation non violente. Déjà, ça permet de changer un peu le paradigme. Et surtout, le fait que finalement, les campagnes qu'on voit aujourd'hui qui sont culpabilisantes, ça ne fait que reproduire le schéma
absolument.
De l'éducation traditionnelle et violente telle qu'on la connaît.
Alors que
les enfants, les parents, qui pour le coup se retrouvent un peu infantilisés hein, dans cette démarche, les parents, eux, sont en attente de solutions. Mmh. Moi, aujourd'hui, je suis parent. Si je sens que je peux avoir des débordements, que je peux être poussé dans mes retranchements, j'attends pas qu'on me dise c'est pas bien. J'attends qu'on me dise tiens, respire. Oui. Voilà ce que tu peux faire.
Mmh. Absolument. Non, mais je suis complètement d'accord. Hein, je vous suis sur cette question. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, on avait une étude qui avait été faite et qui disait que 85% des Français donnaient des fessées régulièrement à leurs enfants et étaient contre la loi. Ça n'est pas que les Français soient contre la loi. En ce qui me concerne, je pense que c'est simplement, comme vous le dites si bien, qu'ils n'ont pas de solution, qu'on ne leur donne pas d'idées. Et finalement, en les traitant de cette manière, on les traite un petit peu comme des enfants, effectivement, on ne leur donne pas les outils nécessaires et on leur fait des reproches. Donc, ils ne savent pas de quels outils s'emparer et on leur reproche de frapper, punir, etc. Parce que la fessée, c'est quand même c'est la partie visible de l'iceberg. Malheureusement, il y a tellement d'autres manières d'opprimer un enfant que c'est pour ça que c'est un sujet qui est très complexe parce qu'il culpabilise tout le monde à partir du moment où on l'évoque. Donc, c'est difficile de ne pas culpabiliser les Français avec ce sujet-là. Donc, les solutions, il y en a. Ça ne sera pas, il n'y a pas de baguette magique ni de solution miracle. Quand on lit ça sur Internet, il faut aller un petit peu plus loin. Faites dormir votre bébé en 10 nuits. C'est pas possible. Enfin, en ce qui me concerne, je crois que ça n'est pas possible de respecter un bébé et d'appliquer une méthode pour le faire dormir. Peut-être qu'il va falloir expliquer aux familles quels sont les besoins des enfants. Et à partir de là, constater que lorsque les besoins des enfants sont comblés, le plus souvent, assez souvent, il y a beaucoup moins de difficultés de comportement. Et en plus, si on prenait chaque comportement inapproprié comme un message, dans ma journée, j'ai 15 comportements que je trouve inappropriés et que je commence à me poser la question pour deux et que je me dis, tiens, pourquoi elle a fait ça aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est passé dans sa journée? Quel est le contexte? Est-ce qu'on s'engueule sans arrêt dans le couple en ce moment? Est-ce que à l'école ça se passe pas bien? L'enseignante est pas sympa? Il y a beaucoup de choses. Est-ce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle a sommeil? Est-ce qu'elle a soif? Est-ce qu'elle a froid? Qu'est-ce qui se passe? Un comportement inapproprié n'est pas là pour rien. C'est un peu comme un comportement d'adulte inapproprié. En général, quelqu'un qui manifeste des comportements agressifs, critiques, etc. ne va pas bien, cette personne ne va pas bien. Et un enfant qui a un comportement inapproprié, quelquefois, c'est le symptôme du fait qu'il ne va pas bien. Donc peut-être essayer de se transformer en détective privé, plutôt qu'être punitif, parce que finalement, être punitif, je me souviens que Bernard Lampert, je ne sais pas si vous le connaissez, Cédric, bon, c'est un vieux de la vieille, Bernard Lampert, dans un bouquin, écrivait que punir les enfants, c'était un petit peu comme donner un coup de poing sur une blessure. J'aime beaucoup cette image, parce qu'elle est juste. Le punir, le blesser, crier, etc., c'est donner un coup de poing sur sa blessure. Alors, peut-être qu'on peut essayer de chercher quelle est sa blessure et puis ensuite, quelle est la nôtre. C'est pour ça qu'il n'y a rien de simple. Pour autant, je trouve que quand on commence à changer de regard, et je pense que c'est aussi un changement de regard, cette question de l'accompagnement des enfants, quand on commence à se dire, tiens, mon enfant, il est empathique depuis sa naissance, voire ses 10-12 mois. Donc, je n'ai pas besoin de lui apprendre l'empathie. Ce que j'ai à faire, c'est préserver ce capital empathie. En tout cas, dans un premier temps, ce changement de regard va nous permettre de nous placer en posture d'écoute et d'accueil de ce qui se passe chez notre enfant, plutôt que de se dire « il faut que je le fasse manger, il faut que je le fasse dormir, je suis responsable de tout ça ».
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ben, on peut aussi se dire, il mangera quand il a faim, il dormira quand il a sommeil, et puis les jours où il a école le lendemain, ben, je vais utiliser des pistes et des idées que je vais trouver sur Internet pour l'aider à entrer dans le sommeil, rester avec lui, le sécuriser, parce que je comprends qu'il ne s'endormira pas s'il a peur. Ça va être compliqué pour lui, donc je vais peut-être, en tout cas quand les enfants sont petits, c'est un peu comme ça que ça se passe, je vais rester à ses côtés, attendre qu'il s'endorme ou dormir avec lui, enfin bref, je vais trouver des solutions, mais il y a des moments où je vais lui permettre d'écouter les messages que son corps émet. C'est tellement important d'être à l'écoute de soi, on a tellement perdu ça, nous les adultes, on nous a tellement dit « tu t'écoutes trop ». Non, en fait, t'as pas sommeil, tu viens de dormir, mais il fait froid, couvre-toi. Enfin, bref, ce genre de choses qui nous revient parfois en automatique démontre qu'on a évidemment reçu ces messages et qu'on a été obligé de se couper de nos sensations pour pouvoir avancer avec nos parents. Il fallait pas qu'on soit ce qu'on était, en fait. Il fallait qu'on soit ce qu'ils voulaient qu'on soit, ce qui n'est pas la même chose.
Exactement, je peux que vous rejoindre, c'est un propos que j'ai déjà tenu dans ce podcast, donc je ne peux que être en accord avec ça. Je pense d'ailleurs que c'est la base de la réflexion qui ensuite sera propre à chacun, chacune. Moi j'ai coutume de dire, quand on me demande des méthodes ou quoi, j'ai coutume d'expliquer aux gens que c'est compliqué, parce que si on considère que chaque être est comme il est et mérite d'être aimé comme il est, ça devient délicat, parce que il y a autant de possibilités que de personnes et que d'interactions entre les personnes, puisque mon enfant interagit avec moi, qui interagit avec ma compagne, enfin voilà, il y a toutes ces interactions là qui se mélangent, et donc sûrement l'empathie est clairement une clé, un outil pour répondre à ça. Si je devais résumer votre réponse, moi ce que je comprends, c'est que il y a en effet un travail à réaliser par rapport aux campagnes qui cherchent à sensibiliser sur les violences dites éducatives ordinaires, pour justement proposer des pistes de réflexion et de solutions aux parents. Peut-être qu'une campagne sur l'empathie, ça pourrait être une belle idée, par exemple. Et d'ailleurs, juste pour les citer, hein, je n'invente rien, ça a été la première campagne du modèle suédois quand ils ont fait ce même chemin. Et comme ils ont 40 ans d'avance, on pourrait peut-être se dire qu'ils ont un peu d'expérience sur le sujet. Donc ça, et aussi le fait que, pour le parent, pour s'aider, je vais essayer de le dire avec mes mots, mais pour aider au mieux son enfant, il faut avant tout accepter de s'aider soi-même. Accepter qu'on a des blessures en nous, qu'il faut aussi écouter, qu'il faut... Là où, en effet, moi j'ai coutume de dire que là où il y a de la culpabilité, c'est justement là qu'il faut aller gratter. Il faut l'accepter, il faut être OK avec ça, il faut aller gratter. J'aime beaucoup quand vous parlez de votre web série, et d'ailleurs c'est une des démarches qui est faite dans cette saison 2, c'est de parler de l'émotion des parents, parce que y a ce grand paradoxe de demander à toute une génération de parents qui ne sait pas s'occuper de ses propres émotions d'être très injonctive avec eux et de leur dire vous devez accueillir les émotions de vos enfants.
Ouais, absolument.
Sauf qu'on
c'est
sait
vraiment
pas faire,
pas évident. Non, c'est pas facile. Voilà. C'est vraiment pas facile.
D'une manière plus globale aujourd'hui, si on devait avoir une réflexion sur la place de l'enfance dans notre société, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette approche de l'enfance? Parce qu'on a pu parler de la CIDE qu'on a signée, puis finalement, donc on a signé en 89, finalement 30 ans après, enfin, on pond une loi contre les violences éducatives. Mais y a plein de choses dans cette CIDE. La CIDE pour la Convention internationale des droits de l'enfant.
Les droits de l'enfant, ouais.
Il y a plein de choses dans cette CIDE. Qu'est-ce que vous en pensez donc de l'enfance en France par rapport à cette CIDE qu'on a signée, de tout ça?
C'est très difficile pour moi de répondre à cette question parce que ça me fait penser à pas mal de choses. J'ai l'impression que les enfants, ce sont des personnes en cours d'acquisition de tout un tas de compétences. Et que ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir de la tendresse pour eux et de les accompagner avec délicatesse, sans les humilier, de leur montrer avec patience, et puis d'accepter, je crois que c'est là il y a quelque chose aussi, d'accepter qu'ils aient des émotions, d'accepter qu'ils grandissent. Quand on est un enfant, en France et dans les pays occidentaux, on a souvent, soit on est trop jeune, soit on n'est pas assez grand. Enfin, on n'a jamais l'âge qu'il faut. À un moment donné, évidemment, on est très proche, on peut être très proche de ses enfants petits, et c'est même une excellente chose pour que l'attachement se fasse dans des bonnes conditions. Mais cet attachement, il va nous falloir comprendre qu'il est fait, qu'il est là pour que les enfants décollent, nous quittent. Et ils vont le faire pendant des années. On va avoir du temps pour s'y préparer à ce décollage. Mais le but de l'accompagnement des enfants, c'est que les enfants sachent dans un premier temps se connecter à eux-mêmes, se construire leur propre conscience des choses, et puis ensuite se connectent aux autres. Ça commence par eux-mêmes, leur intériorité, le respect de ce qu'ils sont. Je crois que parfois, on est très protecteur. On les empêche d'avancer. À 8-9 ans, un enfant qui demande à prendre le bus tout seul pour aller à l'école, quelquefois, il va se voir opposer un refus parce que c'est la vie, l'attention. Et si on l'accompagnait, si on faisait plusieurs trajets avec lui en bus et qu'après on le laissait, si on lui faisait confiance, il y a quelque chose, pour moi en tout cas, dans la Convention internationale des droits de l'enfant qui ne ressemble pas, par exemple, à la Convention pour l'accessibilité des personnes en situation de handicap, où là on va tout faire pour rendre les choses, les éléments, les activités, le monde accessible aux personnes handicapées. Peut-être que nous pourrions essayer de faire la même chose pour les enfants s'ils le souhaitent. Je dis pas que les enfants de 3 ans ont envie de faire le tour du pâté de maison pour aller rejoindre leur grand-mère. Moi, j'ai vécu ça avec ma fille aînée, elle avait 3 ans. Elle faisait le tour du pâté de maison à Marseille pour aller chez sa grand-mère. La première fois, je l'ai accompagnée. La deuxième fois, je l'ai suivie. Et la troisième fois, elle l'a fait seule. Et quand je dis ça, j'ai des hauts cris. Enfin, elle se sentait en sécurité, elle pouvait le faire, elle l'a fait. Je crois qu'on est très, on est peut-être très, très protecteur et peut-être trop protecteur. Peut-être que le monde change aussi et qu'il y a énormément de dangers pour nos enfants. Je ne dis pas le contraire. Mais en attendant, on a ce travail à faire de leur rendre les choses accessibles, de leur rendre le monde accessible. Un enfant de 10 ans pourrait donner son avis sur la façon dont il est scolarisé. Il pourrait dire quels sont ses besoins en matière de récupération de certains éléments scolaires. Pourquoi ne leur demandons-nous pas leur point de vue quand ils sont à l'école, qu'ils ont des difficultés? Ce sont les enseignants qui imposent, et les parents, en concertation avec les parents, quelque chose pour remédier à la difficulté scolaire. Mais pourquoi on ne demande pas aux enfants de dire moi ça je comprends pas et j'aurais plutôt besoin de ça et ça? Enfin voilà, il y a beaucoup de choses dans l'enfance, moi, qui me font penser à la période du vieillissement aussi. quand on vieillit, on perd de l'autonomie. Là, on sait que de toute façon, c'est pas, contrairement aux enfants, on n'est pas sur une pente ascendante, mais plutôt sur une pente descendante. Mais on a aussi besoin de cette tendresse, de cet accompagnement, de cette délicatesse et du respect de notre dignité. Les enfants ont besoin d'être respectés aussi dans leur dignité. Ils n'ont pas besoin qu'on leur parle comme, sur un ton, je vais le faire là. Alors mon petit, qu'est-ce que c'est bien, ça se passe bien l'école ? Est-ce qu'on peut leur parler normalement ? Enfin, moi, quand je rencontre des enfants, je leur parle comme je parlerais à des adultes. En même temps, je sais que leurs besoins ne sont pas ceux des adultes. Les enfants ne sont pas des adultes. En revanche, j'essaie de respecter leur dignité au maximum, de ne pas leur imposer un bisou alors que je ne les connais pas, de leur demander si je peux leur faire un petit bisou sur la main. Je crois qu'on manque un petit peu de délicatesse par habitude, et avec les âgés, c'est ce qui se passe, puisqu'il y a quand même aujourd'hui une violence qui est dénoncée, notamment dans les maisons de retraite, où les âgés, on les appelle mamie, papy, on les touche plus, on mixe leur nourriture aussi, c'est ce qu'on fait aussi pour les enfants, on fait des purées, voilà, enfin ça revient à la fin de notre vie. Moi j'ai envie, en fait, je vais vous dire un truc, Cédric, j'ai envie dans mon quatrième âge de vivre dans une société humaniste et qui aura compris les besoins des personnes sans défense. Donc les besoins des enfants et les besoins des âgés.
Et oui, et tout à fait, ça s'applique, et je ne peux que vous rejoindre, c'est essentiel qu'on comprenne que la dignité humaine, ou même la dignité de tout ce qui est, de tout ce qui vit, si on peut même étendre le concept, doit s'appliquer à tous et toutes et tout le temps. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, pour le coup, dans votre propos, que j'ai trouvé très intéressant quand vous faites le lien entre le texte sur l'accessibilité aux personnes en situation de handicap et la CIDE. C'est que d'un côté, on a un texte, donc pour l'accessibilité au handicap, où on explique que la société doit. Et de l'autre côté, on a un texte où on explique que l'enfant doit. Alors, même si c'est doit aller à l'école, machin, mais c'est l'enfant doit. Même si c'est... Et donc, le paradigme est quand même assez intéressant, c'est que, finalement, ces enfants, c'est toujours, voilà, on a un point de vue, une perception qui est toujours dans cet angle de... En tout cas, il faut maîtriser l'enfant. Il faut le maîtriser. Et en tout cas, c'est tel que moi, je le perçois. Alors que il faut l'encadrer, oui, bien sûr. Il faut le sécuriser, oui, bien sûr. Ça, c'est une évidence. Mais peut-être le laisser être. J'aime beaucoup votre exemple du pâté de maison qui, je pense, en fera sauter au plafond quelques-unes. à commencer peut-être par ma compagne. donc voilà. Et l'autre élément aussi que j'ai noté dans votre propos, que j'ai adoré entendre, c'est que l'attachement, c'est le nid, le creuset de l'autonomie.
Absolument.
Plus il y a d'attachement et d'attachement sécure, plus justement l'autonomie sera faite de manière spontanée et de manière totalement sécurisée. Et je vais juste ajouter une petite précision pour les parents qui peuvent nous écouter, tout en comprenant qu'à un moment, quand l'enfant peut être dans une phase d'autonomie, bah, peut-être qu'il va revenir justement.
Oui, absolument. Vers son camp de base. Il y aura des régressions. Ouais.
Voilà, parce que c'est comme ça, il a rencontré une situation de problématique, il revient. Moi, j'ai un exemple très très concret sur ma petite fille. C'est quand elle a voulu apprendre à marcher, elle a voulu se lancer relativement tôt, vers 10-11 mois. Je dis bien relativement parce que je me fous des stats, des moyennes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle s'est cognée. Assez violemment, elle avait un bel œuf sur la tête. Et elle a pas réessayé. En tout cas, pas essayer de cette manière-là avant. Elle a passé un bon 4 mois sans trop retenter.
Ouais.
Et c'est vrai qu'autour de nous, tout le monde disait mais attends, mais c'est terrible. Elle a dû rater le coche, nanana. Et ce côté aussi de rater le coche où elle marchera jamais.
Elle marchera jamais. Voilà. Oui, jamais.
Et en fait, sans prévenir, tout à coup, elle se met debout, elle marche.
Oui.
Voilà, parce qu'elle faisait son truc, elle était retournée dans son camp de base, et donc faut se calmer avec tous ces concepts-là.
Absolument. Je suis complètement d'accord avec ça. Faut se calmer, oui.
Mais exactement. J'ai un dernier point que je souhaitais aborder avec vous, juste pour préciser à nos auditoristes, nous enregistrons cet épisode le 14 octobre 2020. Le 2 octobre 2020, le président Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait mettre fin à la possibilité de faire l'instruction en famille, et ce qui est une attaque d'ailleurs à la liberté d'enseignement dans notre pays. Vous avez apporté votre soutien à cette démarche. Est-ce que vous pouvez expliciter un petit peu votre position sur le sujet?
Alors, justement, je vais revenir à notre sujet précédent pour faire le lien avec ce sujet-là, parce que mon dernier enfant a tété pendant 8 ans et il a signé, elle, c'est une fille, elle a signé son premier contrat de travail à 14 ans. Elle a été déscolarisée elle est entrée à l'école à 4 ans, elle a été déscolarisée à 7 ans, 7 ans ou 8 ans, elle n'est plus retournée à l'école du tout. D'ailleurs, bon, c'est un petit peu l'expérience d'IEF chez nous, elle a été très différente d'une enfant à l'autre, mais ma première fille n'a pas fait l'école primaire, les deux dernières en sont sorties entre 7, 8, 9 ans et n'y sont jamais retournées. Pour moi, ça a été une bulle d'oxygène et une possibilité de retirer mes enfants d'une école qui ne leur convenait pas, qui était très oppressive pour elles et qui les enseignantes leur faisaient peur. Il se passait des choses pas très claires dans la classe. Donc, j'ai eu cette opportunité-là que j'avais déjà utilisée pour ma fille aînée. Donc, je connaissais le processus pour les deux autres. J'ai signalé à l'inspecteur que je retirais mes enfants de l'école. Aujourd'hui, je ne sais pas. Je pense que l'idée, c'est d'éliminer un petit peu les inégalités sociales, alors qu'on sait très bien que l'école renforce les inégalités sociales. Pour le moment, elle n'est pas en mesure d'offrir à nos enfants des conditions d'apprentissage optimales. En 2002, l'OCDE avait pondu un rapport où il était question d'école à la maison comme d'un modèle extraordinaire, quelque chose de révolutionnaire, la maison comme l'environnement le plus riche qui soit pour les enfants, etc., etc. Donc, c'est pas le modèle, l'école à la maison, enfin l'IEF, c'est évidemment pas le système qui va permettre la réduction des inégalités sociales, parce qu'évidemment l'IEF aussi renforce très probablement à sa façon les inégalités sociales. C'est clair que ce ne sont pas n'importe quel parent. C'est pas n'importe quel parent qui va choisir l'IEF, mais en tous les cas, des parents qui ont le temps, qui ont cette opportunité-là, il ne faut pas l'oublier. Il y a des tas de parents qui n'ont pas la possibilité économique de le faire. Moi, je l'ai fait en me mettant vivant dans la pauvreté, quoi. J'ai dégringolé d'un seul coup en démissionnant de l'éducation nationale, en faisant un choix qui ne me permettait pas d'avoir des allocations chômage. Je me suis retrouvée avec mes enfants, certes, dans une toute petite maison, mais voilà, c'était choisi. C'était pas quelque chose de subi. Donc, je ne sais pas pour quelles raisons on voudrait nous enlever cette possibilité-là, qui concerne quand même 50 000 enfants en France, pour remettre les enfants dans un système dont on a démontré que finalement, il est en transition, mais il commence seulement sa transition. On commence seulement à parler de bienveillance à l'école. Et d'ailleurs, d'une manière qui n'est pas forcément bienveillante dans certains établissements où les enseignants reçoivent des petits mots, il faut que vous soyez bienveillant. Oui, mais c'est comme les parents. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Je ne serai pas bienveillant en tant qu'enseignant? Bon, je crois que on a commencé en 2002 à mettre en lien le fonctionnement du cerveau et la pédagogie. Bon, déjà, c'était plutôt tard quand même de se rendre compte que le fonctionnement du cerveau a un rapport avec l'éducation nationale. On est un petit peu là, à mon avis, dans le trop neurosciences. Maintenant, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus que des cerveaux. Tout ça, ça va certainement se rééquilibrer à un moment donné, mais pour le moment, moi j'ai l'impression que tant que les enfants ne seront pas joyeux, contents d'aller à l'école et qu'ils n'y trouveront pas de quoi nourrir leur enthousiasme, je crois que c'est important de laisser cette opportunité de sortir ces enfants de l'école et de les suivre d'une manière adaptée, appropriée, de répondre à leurs besoins d'apprentissage, comme les parents, enfin comme on parlait des besoins tout à l'heure, Cédric, apprendre est un besoin, c'est un besoin humain, et c'est un besoin qui va se manifester sur toute la durée de la vie. Donc, à la maison, rien n'est parfait. Tous les parents ne partent pas dans cet état d'esprit-là. Mais si on est dans une optique de répondre aux besoins d'apprentissage et au centre d'intérêt des enfants, si on est aussi dans une optique de pratiquer nos propres centres d'intérêt et d'intriguer notre enfant, d'accueillir ses questions sur ce qu'on fait, on va partager des apprentissages et ça va se faire d'une façon organique, d'une certaine manière. Et c'est comme ça que ça va se faire sur toute la durée de la vie. C'est comme ça qu'on va apprendre aussi tout ce qui nous permet de vivre aujourd'hui dans cette société qui est, où les technologies ont tellement d'importance. Et où on doit constamment apprendre de nouveaux éléments. Plutôt que d'aller dans une école où tout est très académique, très formaté, avec un cours magistral qui n'a toujours pas été vraiment remis en question, où parfois on a des enseignants qui font des efforts considérables pour répondre aux besoins d'apprentissage de leurs élèves, mais on a aussi, là encore, un univers assez hétérogène. Les enseignants ont aussi certainement à suivre, devraient probablement, j'aime pas dire devraient, mais leur proposer des formations sur la bienveillance, la communication, l'apprentissage optimal, etc. Je pense que ce serait une idée très intéressante. Voilà ce que j'ai à en dire.
Et je vous rejoins en effet sur le fait que, pour résumer ce que j'ai compris de votre propos, déjà le premier point que je relève qui m'intéresse particulièrement, c'est le côté que oui, vous parlez du fait que c'est un choix qu'on doit pouvoir faire dans sa vie, aussi dans sa capacité à être avec ses enfants beaucoup plus. On parlait de la capacité financière, mais aussi une capacité émotionnelle et
ouais,
humaine, parce que
absolument.
Clairement, être avec ses enfants beaucoup plus longtemps et souvent, ça demande aussi des adaptations, notamment parce que je l'ai déjà dit, encore une fois, c'est quelque chose que je constate, c'est que ça permet aussi de changer ses habitudes de vie, de s'entourer, parce que rester seul, isolé avec ses enfants, c'est pas non plus du tout une bonne option. En tout cas, ce que je retiens, c'est que vous, votre choix, il a été fait, vous l'avez annoncé, en faisant aussi le choix de changer votre niveau de vie. Et je trouve ça très intéressant parce que moi, dans les familles qui sont instruction famille que je côtoie, il y a très sincèrement de tous les niveaux de vie. Et quand j'entends aujourd'hui dire que ça n'est qu'une chose de privilégié, je ne suis pas en accord avec ce propos-là. C'est un choix qui est fait parmi tant d'autres et qui se respecte, et ça doit pouvoir rester une liberté accessible. Voilà, moi mon cas personnel, c'est que c'est un choix que je fais en articulant toute ma vie autour de ce choix là ça veut pas dire que je suis dans le sacrificiel et dans l'abnégation du parent qui s'oublie, pas du tout. Ça veut dire que ma vie, avant j'organisais ma vie autour de mon travail, aujourd'hui j'organise ma vie et mon travail autour de ce projet de vie d'accompagnement de nos enfants, tout en respectant nos besoins d'adultes et de couple.
Oui.
C'est important de le signaler.
Pas rien.
Et en effet, je rejoins aussi sur la partie l'école aujourd'hui. Moi, je crois profondément au principe de l'école publique. Au principe de l'école publique. Profondément. C'est juste qu'aujourd'hui, quand on a lu la littérature, les publications, les documentaires sur le développement de l'enfant, votre travail aussi sur le développement de l'enfant, aujourd'hui l'école n'est pas adaptée, selon moi, pour répondre à un accompagnement qui prenne en compte l'empathie, l'attachement, mais d'autres choses aussi, hein, ne serait-ce que le respect des consentements, le respect de la liberté de chacun. Vous dites que ça augmente les inégalités sociales, je vous rejoins aussi. C'est un endroit où on va apprendre justement ce que c'est que le séparatisme, où on va apprendre notamment ce que c'est que... Je vais juste m'arrêter sur un épisode d'un autre podcast qui s'appelle « Les enfants du bruit de l'odeur », où justement des personnes racisées expliquent qu'elles ont appris qu'elles étaient noires en allant à l'école.
Oui.
Et donc aujourd'hui, oui, à l'école publique, mais quelle école publique aujourd'hui on veut proposer à nos enfants ? Je vous rejoins aussi, pour le coup, on se rejoint beaucoup finalement, sur le fait que on parle beaucoup des neurosciences, et qu'en effet, les neurosciences, pour moi, les neurosciences, par exemple, ça ne doit pas être sorti à tout va. Les neurosciences sont aujourd'hui un formidable outil, un formidable appui scientifique pour faire comprendre que ce qui a été une tradition séculaire dans notre dans notre dans notre système social, eh bien on s'est planté quoi. ça doit juste être un appui scientifique. Pendant longtemps, on a cru que mettre des enfants pendant des heures assis sur une chaise et leur faire rentrer des choses dans la tête par cœur comme ça toute la journée, c'était la bonne méthode. Non. Aujourd'hui, on sait que non, et surtout, on sait pourquoi non. Et, et ça nous permet de se guider vers d'autres outils et d'autres situations d'apprentissage qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, on a naturellement un outil d'apprentissage, comme le dit André Stern, qui est très intéressant, c'est le jeu.
Donc,
ça serait peut-être bien de réfléchir à la question. Super.
Et vous savez quoi, Cédric, l'OCDE qui fait des rapports toujours très intéressants, même si voilà, le but est le développement économique, a sorti un rapport sur la créativité. Alors maintenant, l'objectif de l'éducation, c'est la créativité. Qu'est-ce que la créativité ? Dans ce rapport, et je suis tout à fait d'accord avec eux, c'est la capacité à trouver des solutions originales aux problèmes qui se posent, alors les problèmes quotidiens, les problèmes politiques, les problèmes sociétaux, etc. Et puis, la capacité à remettre en question, à développer un esprit critique par rapport aux modèles qu'on nous offre et qui sont des modèles habituels. On pourrait prendre la scolarisation pour... On pourrait se dire, tiens, la scolarité, l'école, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'on peut remettre en question l'école aujourd'hui ? Est-ce qu'on peut vraiment avoir un esprit critique par rapport à l'école ? Et puis aussi, est-ce que l'école est bâtie pour faire des enfants, des esprits créatifs avec un esprit critique ? Eh bien, moi, je pense que non, en fait. Je pense sincèrement, quand je me pose cette question, j'ai vraiment le sentiment... qu'à de rares exceptions près, les enfants sont plutôt accueillis, apprennent à ce qu'on appelle socialisation. En fait, c'est pas de la socialisation, c'est plutôt l'apprentissage du respect de règles relativement arbitraires. Donc, il n'y a pas de socialisation là-dedans. Il n'y a pas non plus de créativité, parce que finalement, la créativité, elle peut s'exprimer quand, à un moment donné, on va vers nos centres d'intérêt, on les développe, on fait des efforts pour arriver à quelque chose d'abouti. Et puis, on va combiner des éléments en fonction d'une question, d'un problème, etc. Et remettre en question et avoir un esprit critique, eh bien, je ne crois pas que les enfants scolarisés, on travaille à faire d'eux des citoyens qui ont un esprit critique. Et aussi, pourquoi ? Parce que beaucoup de règles leur enlèvent toute autonomie. Quand on dit à un élève de sixième qu'il faut qu'il écrive sur des feuilles à grands carreaux, soulignées en vert, etc., etc., ben finalement, on lui enlève toute possibilité de créer, d'être lui-même. Et l'autonomie étant enlevée et la valeur centrale, je dirais, dans notre société concernant l'enfance, je trouve, c'est quand même l'obéissance. Il faut que les enfants s'exécutent, il faut que les enfants obéissent, il faut qu'ils obéissent aux règles dans l'institution scolaire. Et ça, je trouve que c'est dommage. On ne leur fait pas confiance. Et du coup, comment développer sa créativité dans ce contexte-là ?
Et encore une fois. On parle de l'école dans toute sa totalité, dans sa globalité. Oui, il y a certaines écoles qui font des approches pédagogiques différentes. Oui, il y a des enseignants qui font des approches pédagogiques différentes dans des pressions, par ailleurs, qui sont très dures à tenir. Mais dans sa globalité, l'école, en effet, c'est obéir sans réfléchir. Et ça, c'est très, très, très problématique à différents endroits, que ce soit pour les extrémismes religieux ou pour ensuite la vie future et le citoyen et la citoyenne qu'on souhaite devenir.
Absolument.
Merci beaucoup.
D'accord. Merci à vous.
Merci beaucoup, Catherine, pour ce moment ensemble. Et je vous dis à bientôt.
À bientôt.
Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner. Et nous pouvons aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram et sur le blog papatriarca.fr. À bientôt.
Hold up. Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hop, c'est encore moi. Si tu veux soutenir le podcast, tu peux aussi t'abonner à Papatriarca Plus et découvrir chaque semaine un épisode bonus en plus des 60 déjà disponibles. À découvrir sur tes applis de podcast comme Pocket Cast, Castbox ou encore Apple Podcast. À très vite.